Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
Quentin Vinet.
RTL Midi.
Et bonjour à tous. Des centaines de kilomètres d'embouteillage depuis ce matin sur la route des vacances. C'était annoncé avec un samedi classé rouge dans le sud-est et orange dans le reste du pays. On va tout de suite faire un point sur les principales difficultés de circulation avec vous, Florian Delisle.
Ça devrait commencer à se calmer un peu avec la pause déjeuner, mais en attendant, ça reste vraiment très chargé en direction de la Méditerranée sur les autoroutes A6 et A7. Les difficultés vont débuter à partir du sud de Dijon, à Beaune, puis à Chalon-sur-Saône et au niveau de l'arrivée sur Lyon et de son fameux tunnel de Fourvière, comptez une bonne heure de plus. Ensuite, dans la vallée du Rhône, une bonne heure et demie de bouchons entre le sud de l'agglomération lyonnaise et Orange, surtout dans le secteur de Valence. À noter qu'il y a aussi beaucoup de monde dans l'autre sens de circulation vers le nord et que ça coince à Orange, Montélimar et Vienne pendant près d'une heure et quart au total. Plus au sud, sur l'autoroute A9, direction l'Espagne, la principale zone difficile, c'est entre Béziers et Narbonne, au moins une heure et demie de perdu. Comptez une bonne demi-heure également au-delà de Perpignan avant le Pertus et puis des difficultés également dans l'autre sens pendant une demi-heure avant Montpellier. À noter que ça coince également sur la 61 entre Toulouse et Narbonne, direction la côte, pendant au moins une heure et demie. Un secteur à éviter également, celui de Lons-le-Saunier sur la 39, avec une heure et demie de bouchon à cause d'un accident de poids lourd survenu tôt ce matin. Des difficultés également sur l'autoroute A10 entre Paris et le Pays Basque, et également sur la 7 vers le nord avant Marseille.
Dans quelques minutes, nous serons sur une aire d'autoroute à l'heure de la pause déjeuner, au bord de la mer avec les vacanciers déjà arrivés. Et dans les gares où 1 600 000 voyageurs sont attendus jusqu'à demain soir. Dans RTL Midi également, le feu circonscrit dans les Pyrénées-Orientales, mais les pompiers luttent toujours pour éteindre complètement le premier gros incendie de l'été. La France était debout hier, c'est ce qu'affirme le maire de Nice sur RTL, Christian Estrosi, se satisfait de l'émouvante cérémonie un an après l'attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Les abandons d'animaux, toujours aussi nombreux à cette période de l'année. Nous serons en ligne avec le directeur d'un refuge qui est déjà saturé dans quelques minutes. La 14e étape du Tour de France aujourd'hui entre Blagnac et Rodez. Vous entendrez le public qui prend énormément de plaisir avec les Français vainqueurs à 4 reprises depuis le début de la grande boucle. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
On n'oublie pas la crème solaire aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai qu'il va faire beau pratiquement partout. On a juste des nuages un petit peu plus nombreux quand même sur les régions les plus au nord, entre la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. C'est pas du mauvais temps, simplement un partage entre gris et bleu. Pour tous les autres, une très très belle journée ensoleillée. Notez qu'il y aura toujours beaucoup de vent dans le midi, des rafales de Mistral jusqu'à 90 km/h en pointe. La tramontane est en train de faiblir un petit peu. Je pense aux Pyrénées-Orientales notamment, où les rafales atteignent quand même 70 km/h. Et puis pour les températures, ça grimpe un peu, notamment sur la moitié nord. 24 degrés attendus à Mulhouse, 27 à Paris, il fera 28 degrés au Mans, 29 à Grenoble et Toulouse et un maximum de 35 degrés à Montpellier.
Merci Valérie.
Quentin Vinet,
RTL Midi.
C'est l'heure de la pause déjeuner sur la route des vacances et autant dire que l'arrivée va faire du bien après les nombreux kilomètres d'embouteillage que vous rencontrez depuis ce matin, notamment en direction des plages. Peggy Liedono, vous êtes pour RTL au sud de Lyon sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Albon où les vacanciers sont en train de casser la croûte et de se détendre les jambes.
Et oui, se dégourdir les jambes et surtout celles des enfants. Faïm est parti à 5h ce matin de Marne-la-Vallée et il surveille ses deux enfants de 2 et 4 ans en train de se défouler sur le toboggan.
Le but c'est que vraiment ils se défoulent pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, pour que dès qu'ils rentrent dans la voiture, ils puissent faire une petite sieste, histoire qu'on soit un petit peu tranquille sur le trajet.
À quelques mètres de là, Carmen, 7 ans, a opté pour l'aire de fitness.
On est en train de jouer parce qu'on a envie de se défouler les jambes. Bah, après, on retourne dans la voiture et s'asseoir, c'est pas super bien.
Surtout que les bouchons ont depuis quelques heures fait leur apparition. Philippe, le papa de Carmen, cherche donc un plan B pour arriver au plus vite à Marseille.
On va regarder par où on peut éviter un peu tout ce bazar en prenant les petites routes, quitter l'autoroute, quoi, parce que là c'est vraiment très pénible.
Pas sûr que le réseau secondaire soit moins chargé, mais ils profiteront ainsi des charmes de la Drôme.
La plage, la montagne, la campagne, ça c'est au choix pour les vacances. Nicolas Bobby, vous êtes pour RTL en Bretagne, sur la presqu'île de Quiberon, où la saison commence franchement.
Oui, ambiance vacances, le petit train, le tire-bouchon vient d'entrer en gare, c'est la délivrance et déjà tout le programme est prévu.
Baignade, livres, écouter des émissions et voilà, détente, vélo.
On va visiter les belles plages de la presqu'île de Quiberon, puis bronzer un peu.
On va faire du surf à Belle-Île.
Vous savez en faire ?
Non, on va apprendre.
Et puis il y a ceux qui sont déjà sur la grande plage, les pieds dans l'eau.
C'est génial. Elle est un peu fraîche, mais bon, on va s'y habituer. Je fais beaucoup de vélo, beaucoup de marches, balades, et puis bah surtout occuper avec les petits quand ils sont là.
Je me baigne, je fais des trucs gonflables, je fais des châteaux de sable.
Ça change de Paris.
Ah, ça, complètement. Il n'y a plus de canicule ici, tout va bien. C'est génial.
Enfin, d'autres, partis à la conquête du Graal, sont toujours coincés dans les embouteillages.
C'est un des week-ends les plus chargés, effectivement, de l'année sur les routes, mais aussi dans les gares. La SNCF prévoit des pics de fréquentation et attend 1 600 000 voyageurs jusqu'à demain soir. 4 000 TGV vont circuler, c'est un tiers de plus que le reste de l'année. Pour que tout se passe bien, des dizaines, voire des centaines de gilets rouges sont déployés. Par exemple, à la gare de Lyon, à Paris, Loïc, qui s'en va passer quelques jours à la mer, constate que tout est sur les rails.
C'est plutôt bien organisé. Aucune difficulté aujourd'hui pour accéder à la gare et pour avoir le train. C'est plutôt fluide, plutôt serein. Les panneaux d'indication sont clairs, pas de retard. Ils ont mis les moyens, donc ils sont là pour aider les touristes, les provinciaux, les étrangers qui cherchent leurs panneaux, leurs indications, les trains. Donc j'ai pas eu besoin étant parisien, mais je pense que c'est bien organisé. Oui. Et puis une fois de plus, les départs ont peut-être été mieux étalés aussi, donc plus de moyens, plus d'étalement, meilleure organisation. Donc effectivement, ça a l'air d'être un week-end bien organisé pour les départs. C'est pour partir à Samoins, dans les Alpes. Vacances montagnardes, effectivement, oui. Ça peut être un peu la cohue, surtout en hiver. Mais là, l'été, peut-être que avec le week-end prolongé du 14 juillet, les gens ont peut-être plus étalé leur départ. Donc, c'est pour ça que c'est très fluide aujourd'hui.
Direction donc la montagne pour ce vacancier interrogé pour RTL par Gauthier Delon-Bugard. Le premier gros incendie de l'été est circonscrit dans les Pyrénées-Orientales à la frontière avec l'Espagne. Le feu a pris hier en fin d'après-midi sur la commune du Boulou. Les flammes ont parcouru 180 hectares de végétation. 190 pompiers étaient encore sur le terrain ce matin. Vincent Serrano vient de joindre pour RTL le colonel Jean-Pierre Salmazou.
Depuis ce matin, nous n'avons plus de gros foyers, mais nous avons quelques foyers résiduels avec quelques reprises et qui sont traités à la fois par l'hélicoptère bombardier d'eau qui reste en surveillance active ainsi que les personnels au sol. Le feu a parcouru dans un milieu accidenté avec du relief, environ 190 hectares, c'est-à-dire environ 380 terrains de football. Les risques, c'était d'une part des randonneurs qui nous avaient été signalés à l'avant mais qui en fait étaient bien plus loin. Un vrai risque de développement sur le flanc gauche du feu qui menaçait des zones habitées, à la fois des masses à proximité, avec une vingtaine de personnes qui sont auto-évacuées et une famille qui a été mise en sécurité et confinée dans son bâtiment sous protection pompier. L'été va être compliqué et c'est pour ça qu'il faut absolument renouveler les conseils de prudence auprès des usagers, auprès des touristes. Il faut être véritablement attentif, prudent, ne pas générer le risque parce que 95% des feux proviennent d'origine humaine.
Ah, des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Les vacances ne sont pas franchement reposantes pour 87 000 lycéens qui viennent d'obtenir leur bac, mais qui n'ont toujours pas d'affectation pour la rentrée prochaine. La plateforme APB ne les a en fait pas dirigés vers une université à l'issue de la troisième vague de réponses. Le ministère de l'Enseignement supérieur parle d'un système à bout de souffle. Il est 12h38 sur RTL. On marque une pause et dans un instant, on revient sur la cérémonie très émouvante hier soir à Nice, un an après l'attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais.
RTL Midi avec Quentin Vinet.
Un an après l'attentat de Nice, une journée d'hommage était organisée hier en la mémoire des 86 personnes fauchées par un camion sur la promenade des Anglais. Et cette journée de commémoration est unanimement saluée. Des ballons blancs ont été lâchés dans le ciel et ont scintillé pendant plusieurs minutes dans la nuit. La France était debout hier, affirme sur RTL le maire de Nice, Christian Estrosi.
Chaque séquence d'hier, depuis le matin jusqu'au moment où, après les larmes de Calogero que nous avons tous partagées, y compris les choristes, les musiciens qui avaient du mal à finir leur partition, jusqu'au public qui entourait les familles. Ce sont des séquences et des rendez-vous que nous aurons mis un an à préparer. Un an où chaque semaine, nous aurons partagé des heures entières avec chacun des représentants des familles, avec les fédérations de défenseurs des victimes, pour nous assurer que ce soit leur journée. Ce rendez-vous était indispensable. Il était indispensable pour Nice, mais il était indispensable pour la France, parce que désormais, ce ne sera plus jamais dans l'histoire de France que la fête nationale. Ce sera aussi le jour où on a essayé de porter atteinte à cet esprit de liberté, égalité, fraternité qu'incarne le 14 juillet. Et nous avons montré au monde entier hier que là où la France a été frappée un 14 juillet 2016, la France le 14 juillet 2017 était debout.
Christian Estrosi, invité de Philippe Robuchon ce matin sur RTL. Un homme mort à scooter hier soir à Aulnay-sous-Bois alors qu'il tentait d'échapper à des policiers en voiture. Le conducteur avait grillé un feu rouge, sa tête a heurté un poteau selon le parquet de Bobigny et il est décédé sur place malgré l'intervention des pompiers et du SAMU. Il s'agirait d'un homme de 35 ans originaire de Seine-Saint-Denis. L'Olympia, sous la menace d'attaques violentes, les responsables de la salle de spectacle parisienne affirment recevoir des tracts ou des appels téléphoniques dans lesquels il est question d'une action ce soir lors du concert des chanteurs congolais Eriti Watanabe. Les auteurs promettent de commettre, je cite, « un nouveau Bataclan ». La direction de l'Olympia demande l'annulation du concert et s'étonne du silence de la préfecture de police de Paris. En bref, à l'étranger, les cendres du dissident chinois Liu Xiaobo ont été dispersées en mer ce samedi. C'est ce que fait savoir la famille du prix Nobel de la paix 2010 qui est mort avant-hier des suites d'un cancer du foie. Une nouvelle purge en Turquie, un an exactement après la tentative de coup d'État. Plus de 7000 officiers de police, soldats et membres de ministères ont été limogés selon un nouveau décret qui a été publié hier.
RTL. Tour de France 2017.
Fini les Pyrénées, le Tour de France prend aujourd'hui la route du Massif Central. La 14e étape longue de 181 km va mener les coureurs de Blagnac jusqu'à Rodez où l'arrivée se situe en haut d'une côte, 500 mètres avec une pente à 9% de moyenne. On reverra sans doute les favoris pour la victoire finale qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Il y a seulement 2 minutes d'écart entre le maillot jaune Fabio Aru et le 8e Nairo Quintana. On reverra peut-être aussi des Français qui ont remporté les deux dernières étapes, Warren Barguil hier pour le 14 juillet et Romain Bardet, impressionnant, avant-hier à Peyragude. Nicolas Georgerot, vous êtes sur la grande boucle pour RTL et vous constatez que cette année particulièrement, les Français régalent le public.
Oui, des Français capables de s'exprimer sur tous les terrains, d'exploiter surtout des situations qui parfois dans le passé leur échappaient et étoffaient le palmarès de leur adversaire. Desmarques, Calmejane, Barguil, Bardet, sprinteurs, baroudeurs, grimpeurs ou coureurs complets visant le général, le cyclisme tricolore réjouit le champion du monde de 1997, Laurent Brochard.
C'est vrai qu'on est une génération de très bons coureurs, notamment quand ils étaient jeunes, et là ils confirment. Et c'est bien la preuve qu'il y a des fois des cycles comme ça, et tant mieux, et j'espère qu'il y en aura encore quelques-uns derrière.
Des Français offensifs qui viennent se frotter aux grosses écuries au budget de 25 ou 30 millions d'euros, une audace qui plaît aux spectateurs au bord de la route.
Le Tour de France, quand même, c'est des gros cracks qu'il y a. Il y a des grandes équipes, et des équipes qui ont beaucoup plus de budget que d'autres. On n'est pas ridicule.
Les vainqueurs d'étape, ils ont tous entre 24 et 26 ans. Ils en arrivent enfin à concrétiser avec des étapes en costaud comme Bardet et Desmarres, donc c'est génial, et des échappées aussi, donc c'est formidable.
Trois podiums à Paris depuis 2014, et pour les étapes, le bilan d'ici 8 jours sera peut-être d'ailleurs comparable à celui de 2010, avec 6 succès décrochés, meilleur total en 20 ans. Ça crée une attente, une ferveur. Voilà l'accueil réservé à Romain Bardet, troisième du général, tous les matins à sa descente du bus. Mais il a réussi à apprivoiser cet environnement. C'est une évolution, selon Vincent Lavenu, le manager de l'équipage A2R La Mondiale.
Avec cet enjeu, il y a beaucoup d'intérêt autour de lui et tout ça, il le gère bien aujourd'hui. Donc ça s'appelle la maturité.
Il reste le maillot jaune, cette tunique qui fuit pour l'instant les représentants tricolores. Une seule journée en jaune sur les 5 dernières éditions du Tour de France. Le chanceux s'appelle Tony Galopin et c'était en 2014.
Nicolas Georgerot sur la grande boucle pour RTL, le Tour de France, c'est toutes les demi-heures et tout l'après-midi sur RTL. La France gagne aussi en natation. Le jeune Marc-Antoine Olivier, 21 ans, est devenu ce matin champion du monde du 5 km en eau libre. La compétition se déroule dans un lac en Hongrie. Le Français a déjà un joli palmarès puisqu'il a été médaillé de bronze l'an dernier aux Jeux Olympiques. Pour vous donner une idée de la performance, il a mis 54 minutes et 31 secondes pour nager les 5 km. Une page de l'histoire du tennis va peut-être s'écrire cet après-midi. L'américaine Venus Williams, 37 ans, va disputer la finale de Wimbledon contre l'espagnole Garbine Muguruza. Isabelle Langer, vous suivez le tennis pour RTL. Venus Williams pourrait devenir la plus vieille joueuse à remporter un tournoi du Grand Chelem.
L'inusable, je vais y arriver, Venus Williams. Imaginez un peu, la première fois que l'américaine a foulé le gazon de Wimbledon, c'était au siècle dernier. En 1997, Garbine Muguruza, son adversaire du jour, n'avait que 4 ans, un petit peu comme vous, Quentin. Après des années difficiles, une maladie auto-immune qui l'a bien enquiquinée, eh bien l'ancienne numéro 1 mondiale est revenue à son meilleur niveau cette saison. C'est sa deuxième finale en Grand Chelem de l'année après celle perdue en janvier en Australie contre sa petite sœur Serena d'ailleurs, à qui elle comptait bien passer un coup de fil avant cette finale contre l'Espagnole.
Serena
l'a déjà joué en finale, je ne sais plus où, mais je vais lui demander des conseils et je suis certaine qu'elle va m'en donner qui vont me permettre de faire la différence pendant ce match.
Eh oui, ça lui permettrait de remporter un 5e titre à Wimbledon, le 12e quand même pour la famille Williams.
C'est rien que ça. Isabelle Langer pour RTL, on rappelle que chez les messieurs, demain la finale opposera le Suisse Roger Federer au Croate Marin Cilic. Et pour l'anecdote, c'est la 29e finale de Grand Chelem pour Roger Federer.
Qui vise un 19e titre du Grand Chelem.
Rien que ça. Les footballeurs du Paris Saint-Germain s'envolent aujourd'hui pour les États-Unis avec leur recrue brésilienne Dani Alves. Ils disputeront une tournée de matchs amicaux, à la fois pour préparer la prochaine saison, mais aussi pour aller à la rencontre de leurs supporters qui seraient au nombre de 200 millions partout dans le monde, si l'on en croit le directeur général adjoint du club. Déjà un œil sur la Coupe du Monde du rugby qui se jouera au Japon en 2019. Le 15 de France tombe dans le même groupe que l'Angleterre, l'Argentine, les États-Unis, ça on le savait, et les îles Tonga, dernier qualifié qui a décroché son ticket la nuit dernière.
Quentin Vinet, RTL Midi.
Midi 47 exactement sur RTL, cela fait déjà 10 ans. Les Vélib, vélos en libre service à Paris, fêtent leur 10e anniversaire cet été. Ils seront remplacés par d'autres bicyclettes au mois de janvier prochain. La start-up Smoove qui remplacera le groupe JC Deco. Ces vélos ont littéralement changé la vie des Parisiens. Lucie Coquard l'a constaté dans les rues de la capitale pour RTL.
Avant de partir, Martine donne un coup de pied dans les pneus de son Vélib pour voir s'ils sont bien gonflés. À 66 ans, cette retraitée est l'une des 300 000 abonnés à Vélib et ça lui a changé la vie.
J'utilise Vélib depuis le début. Avoir un vélo à Paris, c'est un peu contraignant, donc j'ai trouvé un service extraordinaire. Dès que j'ai un déplacement et s'il ne pleut pas, je prends un Vélib. J'utilise moi ma voiture et moi les transports en commun.
Sur la même borne, Jaled, un peu moins expérimenté, essaye de décrocher son Vélib pour la deuxième fois. Ce fonctionnaire de 39 ans a mis un peu de temps avant de se mettre au vélo, mais maintenant, il ne peut plus s'en passer.
Avant, c'était beaucoup les transports en commun, le métro, et j'avais un peu une crainte par rapport à la circulation dans Paris à vélo. C'était pas forcément très sécurisé au tout début, donc là maintenant, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me déplacer à Paris sans le Vélib.
Et le phénomène dépasse les murs de la capitale puisqu'aujourd'hui, près d'une station sur 6 se trouve en banlieue parisienne.
Le reportage de Lucie Coquart à Paris pour RTL. On va marquer une courte pause et dans un instant, nous parlerons de l'abandon des animaux en cette période estivale. Certains refuges sont déjà saturés alors que l'on n'a peut-être jamais autant parlé du bien-être animal.
RTL Midi avec Quentin Vinet.
Nous sommes en ligne avec Didier Chamberlan, le directeur d'un refuge pour animaux à Saint-Éloi, c'est près de Nevers dans la Nièvre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors nous sommes le 15 juillet, qu'en est-il des abandons d'animaux pour ce début d'été? Vous, ce que vous constatez dans votre refuge?
Nous on est à saturation aujourd'hui, on a beaucoup d'abandons comme tous les ans. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des abandons, mais toute l'année. Tous les autres saisons, je vais dire, pour être plus clair.
Et alors, vous dites que vous êtes déjà à saturation. Ça veut dire que concrètement, il n'y a plus de place. Si quelqu'un vient vous abandonner un animal, vous lui dites « non, je ne peux pas le recevoir ».
On lui demande d'attendre, de patienter un petit peu. Et puis, on attend qu'il y ait des adoptions, en fait. Et puis, comme ça, on peut prendre son animal. Ah non, on ne fait pas de sélection sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 49 chiens dans notre refuge. C'est la législation pour notre refuge. Au niveau du nombre de chats, on n'a pas de chiffre en fait. On peut prendre un maximum. Mais c'est pareil, le refuge n'est pas extensible. Nous, on a une capacité d'une centaine de chats ici. Nous avons fait toutes les chatteries. On ne peut pas prendre plus de 100 chats.
Il y a environ 100 000 abandons chaque année avec des pics tous les étés. On se souvient qu'un triste record avait été battu l'an passé. Les abandons l'été, c'est plus chez vous?
C'est un petit peu plus l'été. Mais je vous dis, c'est toute l'année l'abandon. Parce que les gens, ils font des cadeaux, c'est le chien cadeau. Et ils ne savent pas ce que c'est qu'un animal quand il se retrouve un petit peu plus gros à la maison. Un animal, ça peut être une contrainte aussi. Il faut le sortir, il faut faire pipi, il faut le nourrir. C'est contraignant quelquefois. Et les gens ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte.
Et alors, est-ce que les propriétaires, ils viennent toujours vous amener les animaux ou est-ce que vous en retrouvez toujours au bord des routes ou dans les forêts, comme on peut retrouver dans les campagnes, par exemple, de la SPA à la télévision?
Oui, on en retrouve comme ça. Il y a quelques personnes qui nous les attachent devant le refuge aussi, ça nous arrive. Donc au matin, on est prévenu ou on le sait par la gendarmerie qu'il y a un chien qui peut être attaché devant le refuge. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
Dans ces cas-là, vous êtes obligé de vous déplacer et d'aller le chercher?
On se déplace, mais si vous voulez, nous, on n'est pas fourrière. C'est-à-dire que, je tiens une claire là-dessus, nous, on n'a pas le droit de prendre des animaux sur la voie publique. Donc Les gens nous téléphonent et nous donnent leurs animaux, nous les confient.
Alors on se demande pourquoi le nombre d'abandons d'animaux est toujours aussi élevé à cette période des grandes vacances, alors qu'on n'a peut-être jamais autant parlé du bien-être animal avec, par exemple, les vidéos chocs qu'on a vues dernièrement dans les abattoirs. Pourquoi, selon vous, Didier Chamberlain ?
Pour moi, c'est parce que les gens, le chien devient une contrainte, c'est un peu un meuble, on s'en débarrasse parce qu'on n'en a plus besoin. Simplement, on le jette, c'est un petit peu une déchetterie, quelquefois, là, un refuge.
Ça veut dire que les campagnes chocs, par exemple, les vidéos notamment de l'association L214, que l'on voit et que l'on a vu à plusieurs reprises cette année, ces vidéos chocs ne servent finalement à pas grand-chose.
Je pense que ça sert, parce qu'on parle de plus en plus de la cause animale. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens à convaincre. Et il faut que les gens comprennent qu'un chien, ce n'est pas un cadeau. Je le répète souvent, j'insiste beaucoup là-dessus. Après, vous avez des gens qui sont malheureusement un petit peu trop âgés et qui vont prendre un chiot ou un jeune chien, et on n'est pas immortel. Je crois que l'homme oublie qu'il est mortel. Et nous, on se retrouve souvent face à ça. La personne qui rentre à l'hospice, la personne qui décède et les enfants qui prennent la maison, les meubles, le compte en banque. Mais par contre, le chien, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc le chien, il arrive ici, on l'accepte, parce qu'on n'a pas le choix des fois, on n'a pas le choix, hein. C'est dur. On essaie de demander à ces personnes, vous n'avez pas de la famille, des amis, soyez l'antenne du refuge. Non, on ne connaît personne, donc le chien se retrouve ici. Donc nous, on est un refuge, c'est-à-dire qu'un chien de 10 ans, 12 ans, ça ne nous dérange pas, parce qu'à travers ça, il y a aussi des gens merveilleux qui sont aptes à prendre un chien d'un certain âge, qui sont aptes à prendre un chien même handicapé. Tout le monde n'est pas pourri sur cette terre au niveau des animaux.
Et on parle souvent du poids des images avec les campagnes chocs dont on vient de parler. Est-ce que vous évoquez ces campagnes avec les personnes qui viennent vous abandonner des animaux ?
Oui, j'en parle, je leur explique, mais vous savez, les gens ils sont un peu obtus. Hein. Quand ils viennent abandonner, eux, c'est pas de leur faute, c'est de la faute du chien. C'est jamais de leur faute. C'est-à-dire que nous, les abandonneurs, si vous voulez, une fois qu'ils sont arrivés ici, ils n'ont pas conscience de tout ça.
Donc c'est trop tard ?
C'est trop tard. Ils disent, il faudrait le faire vraiment en amont.
Quand vous leur en parlez, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Ils ne savent pas trop répondre. Ils tournent autour du pot. Ils ne veulent pas En fait, ils veulent pas se remettre eux-mêmes en cause. Parce que je pense que quelque part, cette campagne choc, ils ne l'ont pas regardée. Hein. Ce sont eux les pollueurs, en fait. Non ?
Ça veut dire qu'il en faudrait encore plus des campagnes à la télévision, à la radio, dans les bouches de métro, par exemple, dans les villes. Il en faudrait encore plus ?
Oui, il faudrait beaucoup plus, oui. Oui, pour que les gens comprennent bien, surtout, le problème en amont, c'est qu'un animal, je répète, c'est une contrainte, c'est pas un cadeau, c'est un être vivant. Donc il ne faut pas le jeter comme ça. Et je pense qu'avec toutes ces campagnes qu'on regarde actuellement, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui font très attention à ce qu'ils mangent, au niveau de la viande, tout ça. Je crois qu'ils font beaucoup d'efforts, les gens. On en parle beaucoup.
Mais ça n'a pas finalement de conséquences, puisque vous avez toujours autant d'abandons dans votre refuge.
C'est peut-être parce que c'est un début, et peut-être que les gens vont arriver à comprendre. En fait, il faut communiquer un maximum, la communication.
Didier Chamberlain, aujourd'hui, abandonner un animal, on le rappelle, c'est passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Est-ce que, selon vous, il faut un renforcement des sanctions ?
Il faut en faire plus, oui. Sur la maltraitance animale, je trouve que c'est un petit peu léger. Ce qu'on propose comme peine, c'est pas assez. Et puis, comme souvent, les gens sont au RSA ou ont soi-disant des problèmes en plus, c'est-à-dire que la peine, pour moi, elle n'est pas appliquée. Il suffit juste de voir les comptes rendus vis-à-vis de la presse sur les sanctions appliquées, sur des choses effroyables. Moi, je trouve que c'est léger.
On vous remercie beaucoup, Didier Chamberlain, d'être venu discuter de cette problématique sur l'antenne d'RTL. Je rappelle que vous êtes directeur d'un refuge pour animaux à Saint-Éloi, dans la Nièvre. Merci beaucoup et bel été à vous.
Merci, bonne fin de journée et bon été à vous aussi. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. Il est midi 57 sur la première radio de France. On va marquer une courte pause et puis on va tout vous dire de la météo de votre week-end.
RTL,
c'est l'été.
Et pour la météo, c'est assez simple aujourd'hui, Valérie Quintin, il fait beau.
C'est vrai, il fait beau, alors c'est pas tout à fait net quand même. On a sur les deux tiers sud du pays un temps très ensoleillé, puis des passages nuageux qui circulent au nord de la Seine, pas grand chose. Il y en a quelques-uns sur le Cotentin, ça glisse jusqu'au nord et vers les Ardennes et l'Alsace, donc il n'y aura pas de mauvais temps. Au pire, on peut avoir 2-3 gouttes de pluie sur le département de la Somme ou encore sur le Pas-de-Calais, c'est vraiment rien de plus. Mm-hmm. Des nuages qui vont glisser jusqu'au bassin parisien, jusqu'à la Champagne, mais encore une fois sans écarter ni l'impression de beau temps, ni la totalité des éclaircies. Dans le sud, on va avoir du vent toujours. Mistral et Tramontane restent assez forts encore cet après-midi, soufflant de 70 à 90 km/h en pointe du Roussillon à la Provence. Et dans la foulée, avec tout ce soleil, les températures grimpent un petit peu. 24 degrés à Lille aujourd'hui, 27 dans la capitale comme à Rennes, 28 à Lyon, 29 à Montauban, 33 degrés à Marseille.
Et alors pour la suite du week-end, notamment pour demain, Valérie?
Eh bien demain, figurez-vous qu'il va faire beau, encore plus beau qu'aujourd'hui, puisque cette fois on n'aura plus cette petite grisaille donc, qui est constante cet après-midi sur les régions les plus au nord. Certes, il y aura un voile nuageux toujours un peu plus dense quand même, au nord de la Seine plutôt qu'au sud, mais enfin c'est vraiment histoire de chipoter, il n'y aura pas la moindre goutte d'eau. Mistral et Tramontane vont faiblir et les températures vont continuer de grimper demain. Alors pas dans le courant de la nuit, là on reste un petit peu dans la fraîcheur sur le nord. Dans l'après-midi, une moyenne de 28 degrés pour la moitié nord, 31 pour la moitié sud.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie Quintin. RTL, il est 13h.
Quentin Vinet.
RTL Midi.
Et les routes sont chargées. C'est un samedi rouge dans le sud-est, orange dans le reste du pays. Florian Delisle, c'est compliqué.
Sans surprise, les principales difficultés se situent dans la vallée du Rhône, dans les deux sens de circulation sur l'autoroute A7. C'est tout de même en direction de la Méditerranée que ça coince le plus, avec 70 km de bouchons cumulés et un temps de parcours de 3h10, soit le double de la normale entre le sud de Lyon et Orange. Ça roule mal également vers le nord, surtout avant d'arriver à Lyon, avec une retenue de 3 quarts d'heure suite à un accident. Plus au sud, la 9 reste difficile en plusieurs points entre Nîmes et l'Espagne, surtout dans le secteur de Béziers avec une bonne heure de perdu. Sur la 61 entre Toulouse et Narbonne, comptez quasiment 1h30 de plus. C'est surtout à Carcassonne que ça coince. On part pas très loin de Marseille sur la 8. C'est difficile juste avant de récupérer l'autoroute A7 vers le nord dans le secteur d'Aix-en-Provence pendant plus d'une heure. Ça s'améliore au sud de Dijon sur l'autoroute A6, mais pas sur la 39 en direction de Lyon. À éviter toujours le secteur de Lons-le-Saunier avec une bonne heure et demie de bouchons. Direction l'Atlantique, l'autoroute A10 reste difficile, surtout à Tours, une demi-heure de perdu, une demi-heure également avant Bordeaux, la sortie de Bordeaux également en direction le Pays Basque est compliquée sur l'autoroute A63.
Le radioguidage tout l'après-midi sur RTL. Un homme est mort à scooter hier soir à Aulnay-sous-Bois alors qu'il tentait d'échapper à des policiers en voiture. Le conducteur avait grillé un feu rouge, sa tête a heurté un poteau. Selon le parquet de Bobigny, il est décédé sur place. Les secours n'ont rien pu faire, il s'agirait d'un homme de 35 ans originaire de Seine-Saint-Denis. Le premier gros incendie de l'été circonscrit à la frontière avec l'Espagne. Le feu a pris hier en fin de journée sur la commune du Boulou. 180 hectares de végétation ravagée. 190 pompiers étaient encore sur le terrain ce matin. 4 d'entre eux ont été légèrement blessés. Dans 20 minutes, les coureurs du Tour de France s'élanceront pour la 14e étape entre Blagnac et Rodez où l'arrivée se situe au sommet d'une côte. L'Italien Fabio Aru porte toujours le maillot jaune. Une médaille d'or en natation. Le jeune Marc-Antoine Olivier a été sacré sur l'épreuve du 5 km en eau libre ce matin en Hongrie. Le nageur, entraîné par Philippe Lucas, a mis 54 minutes et 31 secondes. Et puis, ce rendez-vous que vous allez retrouver tout l'été sur RTL, les samedis matins et à la mi-journée, un bonbon sur la langue en compagnie de Philippe Robuchon et de Muriel Gilbert.
Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
Muriel Gilbert, bonjour.
Ami des mots, bonjour.
Vous allez nous accompagner tout l'été avec ces bonbons sur la langue tirés de votre livre. C'est un peu apprenons et amusons-nous surtout avec la langue française. L'orthographe n'est pas forcément un bon souvenir pour tous les Français.
C'est vrai. Et si vous êtes un chouïa en froid avec l'orthographe, comme c'est le cas effectivement de 8 Français sur 10 environ, vous vous imaginez sans doute qu'elle est gravée dans le marbre. Eh bien, je vais gravement vous décomplexer.
Ah.
Car... que nenni. L'orthographe évolue. Voyez par exemple le pluriel compliqué d'un nom composé comme chef-d'œuvre. Dans son premier dictionnaire, en 1694, l'Académie française préconise chef-d'œuvre avec un S à chef et un S à œuvre. En 1718, dans le suivant, elle se ravise et elle opte pour un seul S, à œuvre. En 1740, elle revient aux deux S. 22 ans plus tard, en 1762, c'est le retour du S unique, à œuvre. Et en 1798, revoilà les deux S jusqu'à 1835.
Difficile à suivre, hein ?
Oui. Alors en 1835, on entérine chef-d'œuvre avec un seul S, mais à chef. Comme aujourd'hui, enfin. Ça, c'est jusqu'à la prochaine fois, vous avez compris. Hein. Alors, le PH de Nénuphar, il a subi à peu près les mêmes montagnes russes. La dernière réforme, celle dont il a été question en 2016, propose de rétablir le F.
Ah non, mais Nénuphar avec un F, ça ne va pas du tout.
Ah, je suis bien d'accord avec vous. Notre chance, c'est que cette réforme, elle est facultative. On garde notre PH si on veut.
Ouf !
Bref, l'orthographe n'est pas gravée dans le marbre. Et les dictionnaires, même celui auquel travaillent sans relâche là, les immortels de l'Académie française, ne font qu'entériner l'usage. Ce qui veut dire que la langue française appartient à ceux qui la parlent et à ceux qui l'écrivent. Nous, quoi ?
Exactement.
Si nous faisons tous la même faute, ben, elle n'en sera bientôt plus une.
C'est vrai, ça ? Si on fait tous la même faute, le mot tel qu'on le dit et l'écrit entrera dans le dictionnaire ?
Eh oui. Enfin, laissez tout de même 10 ou 20 ans au lexicographe pour la digérer. Hein. Regardez. Alors que les dictionnaires prescrivaient événement avec deux accents aigus sur les « e », tout le monde, hormis les correcteurs de presse et autres maniaques de l'orthographe, dont bah, je dois bien avouer que je fais partie, tout le monde écrivait événement avec un accent grave sur le deuxième « e ». Et c'était bien naturel, puisque c'est comme ça que la plupart des francophones prononcent ce mot. Eh bien, cette orthographe, elle est finalement entrée dans les dictionnaires, admise à côté de l'autre. Allez, quelle faute on décide de faire tous ensemble pour qu'elle rentre dans les dictionnaires ?
Oh, j'en aurais plus d'une, je crois. Merci Muriel, on vous retrouve demain en tout cas. On va parler, je crois, des anagrammes. À demain.
À demain.
Un bonbon sur la langue avec Muriel Gilbert, auteur du livre « Bonheur des fautes » à la librairie Viber. Il est 13h05 sur RTL. Bel après-midi à tous. Dans un instant, vous serez en compagnie de Louis Baudin pour Élémentaire.